BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Au sommaire, cette semaine, une rue du Made in France inaugurée récemment en plein cœur de Paris. Nous verrons ce que l'on peut y acheter, mais aussi quelles sont les valeurs et les objectifs de ces combattants du produire et du consommer en France. Notre première invitée est Émilie Auvray, qui a créé les boutiques L'Appartement Français et qui est à l'origine de cette rue du Made in France. La confiserie du roi René produit quant à elle des calissons made in Provence depuis plus d'un siècle, à Aix-en-Provence évidemment, et l'entreprise veut aller encore plus loin dans le sourcing de ses ingrédients avec la relance d'une filière française de production d'amandes. On en parlera avec Laure Pierre-Esnard, qui est la directrice générale de la confiserie du roi René. Enfin, direction le Bordelais à la fin de cette émission avec Bordeaux Family, un regroupement de 300 viticulteurs qui se lance cette année dans le Nolo, cette tendance très forte des vins avec peu ou pas d'alcool. Notre troisième invité est Philippe Cazot, le directeur général de Bordeaux Family. Et tout d'abord, donc, continuons à soutenir le Made in France après notre spéciale industrie française de la semaine dernière. J'ai le plaisir de recevoir Émilie Auvray. Bonjour.
Bonjour, Gérard.
À l'occasion de l'inauguration, il y a quelques jours, donc, d'une rue d'une Made in France en plein cœur de Paris. Alors, il y avait une première édition éphémère d'environ deux mois en 2018, près de la place de la République. Cette fois-ci, ce projet que vous portez, donc, Émilie, a pour vocation à durer. Et on en parle ensemble dans un instant. Mais tout d'abord, eh bien, on va regarder ce reportage d'Astrée Olivier. Donc dans cette rue du Made in France à Paris.
Nous sommes rue du Bourg-Tibourg dans le 4e arrondissement de Paris et aujourd'hui on inaugure la rue du Made in France. Objectif, valoriser l'artisanat français dans tous les secteurs d'activité, mode, parfumerie, joaillerie et gastronomie. On va découvrir tout ça ensemble.
L'Appartement Français est l'instigateur du projet. Cofondé en 2017 par Émilie Auvray et David Rémy, l'aventure a pris naissance dans leur histoire personnelle.
Moi, j'ai un grand-père qui était dans les Vosges, qui était dans les filatures de coton, et la grand-mère d'Émilie qui était couturière. Avoir en main des choses bien faites, c'est quelque chose que l'on nous a inculqué depuis très très longtemps.
Et c'est aussi une attente du côté des consommateurs. Selon le réseau des CCI, 9 Français sur 10 désirent acheter plus de Made in France. Émilie Auvray attend de ce projet qu'il crée une nouvelle habitude de consommation.
On avait une réelle envie de créer un lieu de vie où on trouve le plus beau produit qui soit.
Plusieurs commerçants se sont donc joints à ce projet. Grégory Anoni a lancé sa marque de bijoux rock, le Flibustier, il y a 13 ans. Opter pour une fabrication de proximité a été pour lui une évidence.
On voulait dès le départ pouvoir maîtriser les réparations, s'il y en a, pouvoir faire du custom aussi. On a la possibilité de faire des bijoux à la demande.
Le Made in France est aussi un combat dans le secteur du textile. Seulement 3% des vêtements achetés sont français. Bruno Nahan, le fondateur de Fantasy Militaire, compte bien y remédier.
L'étincelle initiale, c'est de montrer que cette collection, on a développé des matières, on a fait travailler des ateliers de confection à Paris et également à Troyes.
La gastronomie reste le produit le plus plébiscité pour le commerce de proximité. Le Lautrec est un chocolatier auvergnat depuis 30 ans, installé dans le Marais. Pour son directeur commercial, Lilian Garcia, rejoindre le projet de la rue du Bourg-Tibourg est avant tout un moyen de mettre en avant le savoir-faire français.
Moi, je veux pas être estampillé Made in France. On veut au contraire faire découvrir ce qu'on sait faire de mieux. On cherche pas une appellation. On essaie de représenter.
De représenter les régions françaises en achetant leurs produits phares, abricots et figues d'Auvergne ou encore citrons de Menton, un gage pour la qualité des produits et une démarche vertueuse pour l'environnement.
Voilà donc pour cette rue du Made in France en plein cœur de Paris. Émilie Auvray, bonjour.
Bonjour Jérôme.
C'est donc vous qui êtes à l'initiative de cette rue. Une version plus durable donc de cette rue du Made in France après celle de 2018. Pourquoi avoir attendu ces 6 ans pour relancer ce projet qui avait été donc installé de manière éphémère?
Alors en effet, c'est la rue du Made in France, le retour. En 2018, on a eu la chance de vivre ce magnifique événement pendant 2 mois. Et en fait, nos clients depuis nous demandent quand est-ce que la rue du Made in France reviendra. Il n'y avait pas forcément l'opportunité d'un point de vue loco-commerciaux, tout simplement. Donc ça a pris son temps et puis tout d'un coup, elle est apparue sous nos yeux telle une évidence et donc on l'a relancée.
Donc cette rue du Bourg-Tibourg, en plein cœur du quartier du Marais, dans le 4e arrondissement, c'est juste cette rue. Est-ce qu'il y a une possibilité, si on est dans des rues perpendiculaires, pas très très loin, de s'y installée. C'est quoi le concept dans les prochains mois, l'évolution?
Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vraiment la rue du Bourtibourg et son quartier. Donc, on est une dizaine de boutiques aujourd'hui installées sur cette rue et la rue juste adjacente. L'objectif, c'est de faire grandir le nombre de boutiques. De 10, on a la capacité actuelle de passer à 40. Et pour moi, l'aboutissement de ce réseau de 40 boutiques serait plus ou moins vers octobre, en tous les cas avant décembre, parce que le marais regorge aujourd'hui de savoir-faire, de boutiques dédiées au Made in France, et personne ne le sait.
Alors, quelles sont les marques à l'instant T? Donc, vous parliez d'une dizaine de boutiques. Quelles sont quelques-unes des marques qui vous suivent déjà dès le lancement de cette opération?
Alors, aujourd'hui, on a La Bonale, qui fait de magnifiques chaussettes, garçons français en sous-vêtements. On a les deux concept stores de l'appartement français que j'ai co-créé, avec une centaine de marques qui sont représentées. On a Fantasy Militaire.
On l'a vu dans le reportage.
Exactement, qu'on a vu. Le Flibustier qui fait des bijoux rock. On a aussi des parfumeurs comme l'eau de Cassis. Donc tout ça aujourd'hui dans la rue, mais quand on prend tout le marais, il y a les copains de 1083, de Comme Avant, de Marius Fabre, des chaussures Clément, des chaussures Le Soulor, d'autres petits concept stores dédiés au Made in France aussi. Donc il y a vraiment déjà tout le savoir-faire qui est présent.
Les 10 boutiques à l'instant T, ça représente un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Et votre objectif de 40 boutiques, ça porterait le chiffre d'affaires à quel niveau ?
Une quarantaine de boutiques à peu près 15 millions de chiffres d'affaires. C'est important de poser ces chiffres pour montrer l'impact, parce que ce chiffre d'affaires, il faut bien savoir qu'il est intégralement réinvesti dans de l'économie locale. On vend du Made in France et on rachète du Made in France. Donc c'est vraiment une économie circulaire qui est très vertueuse.
En termes de cotisation, est-ce que c'est une cotisation pour faire partie de cette rue? Vous, en contrepartie, qu'est-ce que vous leur apportez? C'est quoi? C'est des opérations? C'est de la visibilité? C'est de la communication?
Aujourd'hui, en effet, on est sous forme de communication qui est un prix très accessible, puisqu'on est à 250 euros par mois. Donc une petite somme pour générer du trafic, de la visibilité, de la communication. Cependant, on est vraiment soutenu par la mairie de Paris-Centre et la mairie de Paris, et l'objectif à court terme, ça va être de passer en association pour aussi pouvoir bénéficier de subventions, donc ce réel accompagnement pour donner plus de visibilité à toutes ces boutiques.
Et les critères pour faire partie du club, c'est un sourcing 100% français, il y a quelques limites, c'est quoi les principaux critères?
Alors, il faut avoir une boutique, il faut avoir envie de faire partie d'un collectif aussi, c'est une démarche d'intelligence collective, et il faut avoir au minimum 70% des produits de sa boutique qui soient fabriqués en France.
Et c'est compliqué, on parle beaucoup dans cette émission, j'avais encore sur ce même plateau la directrice générale du Slip français il y a quelques jours. Le sourcing, c'est compliqué, le sourcing des matières premières, mais le sourcing aussi des produits finis?
Pour le distributeur, c'est pas un sujet, en fait. Aujourd'hui, on a la chance, et en même temps, c'est un problème, d'avoir énormément de marques qui nous sollicitent. Nous sommes sollicités tous les jours pour distribuer des marques. Et bien évidemment, on n'a pas la capacité en mètre carré pour le faire. Donc, c'est bien pour nous distributeurs, puisque le sourcing, il est à profusion. Mais par contre, c'est vraiment aussi un indicateur de besoin fondamental pour les marques de se distribuer, de faire du chiffre d'affaires, parce qu'on peut fabriquer, c'est formidable, mais si on ne vend pas, on ne survit pas.
Et les consommateurs suivent, on parle beaucoup évidemment de la thématique du pouvoir d'achat. Est-ce que les consommateurs suivent? C'était très tendance pendant le Covid, ça l'était encore après, puis sont venus tous les problèmes liés évidemment à l'inflation, donc au pouvoir d'achat, est-ce que les consommateurs suivent?
Alors aujourd'hui, on l'a dit dans le reportage, 90% des Français sont enclins à consommer Made in France. Pour moi, il y a un réel problème d'accessibilité au Made in France. Et c'est là où notre rôle de distributeur, voire même notre responsabilité de distributeur est engagée, de pouvoir donner accès physiquement par le commerce physique, donner accès aussi d'un point de vue digital, et puis aussi accès d'un point de vue financier à des produits qui puissent être accessibles justement financièrement, qui puisse remplacer un produit made in ailleurs sur un prix relativement similaire.
Et sur votre initiative, donc à vous, vous avez co-créé l'appartement français donc en 2017 avec David Rémy, qu'on a vu aussi dans le sujet d'Astrée Olivier. 7 ans après, quel est le bilan? Je crois qu'il est plutôt bon, puisque vous venez d'ouvrir une deuxième boutique de l'appartement français.
Ouais, ben 7 ans après, ça n'a pas été facile tous les jours. C'est sans cesse une remise en question, des paradigmes, des visions différentes de l'entreprise à faire émerger. Aujourd'hui, le premier concept store est résilient. Il a traversé tous les épisodes des dernières années et on vient d'en ouvrir un second dans la même rue, dans la rue du Bourtibourg.
Sur le thème de la déco, alors que la première était sur l'habillement, hein, c'est
Exactement. Une boutique mode, une boutique maison.
Encore un mot de votre modèle économique à vous. Vous êtes plutôt dans le modèle du dépôt-vente. Ça veut dire que vous n'achetez pas les stocks, parce que évidemment, il y a des enjeux de trésorerie. Vous les mettez en vente et ensuite, comment ça se passe? Vous avez une répartition du chiffre d'affaires avec vos producteurs?
Exactement. Ça a été le parti pris de l'appartement français dès le début de l'aventure. En tant que distributeur, on voulait avoir le meilleur emplacement possible, ce qui a évidemment des coûts très élevés. Et quand on marge peu avec des produits made in France, on ne peut pas tout faire. Ou sinon, on serait sûrement plus là aujourd'hui. Donc, on est parti sur le modèle du dépôt-vente. Donc, aujourd'hui, à peu près 70% des produits que l'on propose sont en dépôt-vente, ce qui permet à la marque aussi de marger un peu plus que si on lui avait acheté son produit. Donc, on est sur du gagnant-gagnant qui nous permet aussi de prendre des risques, tester de nouveaux produits, de nouvelles marques, sans pour autant prendre des risques qui pourraient nuire à notre futur.
Et cette rue, vous me le confirmez, cette fois-ci, elle est pérenne, elle est ancrée et elle est amenée à se développer à Paris, dans d'autres rues ou dans d'autres villes aussi, pourquoi pas?
Alors, à Paris, justement, pour couvrir tout le Marais, tout ce site historique, et dans d'autres villes avec un immense bonheur, oui.
C'est en cours ou c'est un peu compliqué de mettre en place ça dans d'autres grandes villes?
On vient de lancer, on va faire grandir et je reviens vous voir bientôt et avec j'adorerais le faire dans d'autres villes.
Ouais. Étape par étape, comme on dit en bon français. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour, Laure Pierisnard. Est-ce que le roi René a vocation à être dans une des boutiques de la rue du Made in France?
Bah, écoutez, pourquoi pas.
À la chocolaterie Lautrec, peut-être, hein, qui propose de nombreux produits. Vous êtes, en tout cas, bonjour, la directrice générale de la confiserie du roi René, une des plus célèbres fabriques de calissons à Aix-en-Provence. On va parler dans un instant de votre combat en faveur de plus de production d'amandes françaises, mais tout d'abord un petit peu d'histoire. Comment se porte ce beau centenaire qu'est le roi René, puisque l'entreprise, vous l'avez créée en 1920, donc à Aix-en-Provence?
Oui, tout à fait. Donc, entreprise fondée en 1920. Aujourd'hui, donc, un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros, plus de 100 salariés sur site. On a développé récemment aussi un réseau de boutiques. On a 14 boutiques avec une boutique en ligne. Nos savoir-faire sur Aix sont le calisson. C'est pour ce produit qu'on est reconnu aujourd'hui comme excellence française.
C'est l'essentiel de votre production d'ailleurs.
Hein, exactement, c'est la majorité de notre production, mais il faut savoir que notre premier savoir-faire finalement était le nougat, un très bon nougat de Provence aussi que nous perpétuons depuis maintenant plus de 100 ans.
Et vous faites aussi des infusions, des biscuits, des pâtes de fruits, des chocolats d'ailleurs aussi.
Exactement.
Un mot du roi René, on en parle beaucoup quand on est à Aix, c'est vrai qu'on vient dans vos boutiques assez facilement. C'était qui le roi René en
Alors,
quelques secondes?
Le roi
secondes
René était duc d'Anjou, mais également comte de Provence. C'est un mécène qui a énormément marqué le territoire de la Provence, en particulier Aix et Marseille, où il a créé un jardin aussi à Marseille. Et effectivement, il est aussi à l'origine de la création du calisson, puisqu'une légende raconte que le calisson aurait été créé lors de son mariage avec Jeanne de Laval, pour lui rendre le sourire.
Eh bien voilà, donc une belle histoire et qui se perpétue en ce 21e siècle. Vous avez parlé de votre chiffre d'affaires. Le nombre de tonnes de calissons produits, c'est au-delà des 500 tonnes, hein, je crois.
Tout à fait, plus de 500 tonnes de calissons et 100 tonnes à peu près de nougat.
Un mot important sur, vous êtes EPV, entreprise du patrimoine vivant, depuis 2012. C'est un label qui se mérite parce qu'il est renouvelé tous les 5 ans. Je crois qu'il a été renouvelé l'année dernière. Qu'est-ce que ça vous apporte? En premier lieu, c'est assez prestigieux, mais ça a aussi un impact commercial. Ça a aussi des contraintes aussi, d'ailleurs. C'est quoi les avantages et les inconvénients de ce label?
Il faut savoir que c'est le seul label d'État qui reconnaît l'excellence française, en fait, au niveau artisanal et industriel. C'est déjà une belle fierté pour nos confiseurs, nos salariés, en fait, d'avoir ce label et d'avoir su le renouveler 3 fois, parce que c'est pas du tout une démarche automatique, hein, c'est un long processus. Il faut montrer qu'on a su préserver justement notre savoir-faire dans les règles de l'art, qu'on a un savoir-faire rare qui se mérite avec souvent une connaissance vraiment de l'homme. Et puis dans le label, il y a vivant, entreprise du patrimoine vivant, donc c'est aussi une facilité pour l'entreprise à être dynamique, tournée vers le futur. Donc il y a une question de création, d'innovation, de renouvellement des process, etc.
Alors parmi les innovations, d'ailleurs on va parler de votre combat en faveur des amandes françaises. Vous avez là donc une des boîtes de la collection qui est sortie récemment. C'était en 2023-2024 cette nouvelle collection.
Oui, ben là c'est tout récent, ça date d'il y a quelques semaines en fait. On a sorti notre recette 100% amandes de Provence. En fait, ça a été quelque chose qu'on a mené assez rapidement finalement, puisque les producteurs l'année dernière, lors de l'AG de France Amandes, nous ont dit cette année on va avoir une excellente récolte. C'était pour la première fois depuis de longues années en fait, et on s'est dit créons un produit exclusivement amandes de Provence pour être là au rendez-vous et pouvoir augmenter aussi nos achats en Provence.
Est-ce que c'était pas le cas, les amandes que vous utilisiez, elles venaient principalement jusque-là d'Espagne, je crois.
Oui, tout à fait. En fait, alors il faut savoir que le pays grand producteur d'amandes, c'est les États-Unis avec la Californie. Le roi René a toujours sourcé ses amandes auprès de l'Espagne, donc quand même au plus proche de la fabrique. Mais notre volonté était de relancer cette culture qui était très présente jusqu'au début du XXe siècle, puisque Aix-en-Provence était même la capitale mondiale
de l'amande.
On éditait le cours de l'amande au niveau mondial. Il y avait énormément de négociants et énormément d'amandiers partout en Provence.
Et qu'est-ce qui a fait que le XXe siècle, tout a périclité ?
Eh bien, je dirais, il y a eu déjà les guerres qui sont passées par là, un peu moins de main-d'œuvre, et puis surtout une demande qui a diminué, un hiver en 56 où il y a eu beaucoup de gel, et comme la demande n'était plus forcément là, les amandiers ne se sont pas replantés.
Donc, vous vous êtes dit, depuis 2015, il y a eu un plan de relance qui a été mis en place, et le roi René en a fait partie.
Oui.
Vous vous êtes dit, il n'est pas normal qu'on ne retrouve pas ce niveau de production, et c'est ce que vous êtes en train de faire avec un vrai plan de combat depuis une petite dizaine d'années.
Exactement, en fait la volonté a été de lancer ce plan de relance en 2015, début 2015, on s'est réunis avec la Chambre d'agriculture régionale avec quelques producteurs et on a lancé le mouvement. Il faut savoir qu'entre le moment où on plante un amandier et on récolte les premières amandes, c'est minimum 3 à 4 ans. La pleine récolte, c'est 7 ans, donc ça prend du temps, c'est quelque chose qui se fait sur la durée. L'objectif est de relancer 1000 hectares et en fait ils sont plantés et comme je vous disais, on a eu une très belle récolte l'année dernière, on a multiplié par 5 en fait la production d'amandes entre le début du plan et l'année dernière.
Et vous, chez le roi René, ça veut dire quoi en termes de sourcing de vos amandes? Vous êtes passé peut-être de zéro presque à quel pourcentage?
Tout à fait, en 2015 c'était zéro parce que de toute façon très compliqué d'avoir des amandes de Provence. Aujourd'hui, l'année prochaine, on sera à 30% à peu près de nos achats et ça va continuer. On va accompagner la filière au fur et à mesure de la disponibilité des amandes.
Le Calisson, c'est aussi du melon et des oranges. Est-ce que vous avez les mêmes ambitions de sourcing ou est-ce que c'était fait déjà en fait?
Historiquement, on travaille avec des producteurs, des confiseurs à Apt, hein, c'est la capitale mondiale
dans
aussi
Bocuse,
du fruit confit,
ouais.
Qui récolte le melon sur Cavaillon, l'aire géographique de Cavaillon. Donc on a vraiment cette démarche pour le nougat, c'est aussi du miel IGP Provence. Donc l'ingrédient majeur qui nous manquait au plus proche de la fabrique, c'était l'amande et voilà, c'est chose déjà quasi faite.
Cette boîte donc 100% amande de France, elle est un peu plus chère que la gamme entre guillemets normale?
Elle est environ 15 à 20% plus chère selon, si on se compare selon les conditionnements au niveau des boîtes. En revanche, c'est quelque chose qui est très apprécié et qui ne pose aucun problème auprès de nos clients. En fait, là, je vous disais, ça fait quelques semaines qu'on a lancé le produit. On a un super accueil. Déjà parce que la recette, on sent le goût de l'amande. En fait, il y a un goût beaucoup plus prononcé en fait et le produit plaît énormément. Et puis quand on explique la démarche en fait, les clients attendent ça et donc c'est pas du tout un souci en fait.
C'est ce qu'Émilie nous expliquait. Merci beaucoup donc pour ce combat en faveur des amandes de France donc mené par la confiserie du roi René. Et à propos d'Aix-en-Provence, je vous précise que BFM Business comme chaque année sera présente bien sûr aux rencontres économiques d'Aix avec notamment en direct vendredi 5 juillet Good Morning Business, Hebdo.com et Good Evening Business. C'est je serai également sur place pour enregistrer deux émissions spéciales de La France a tout pour réussir que nous diffuserons au cœur de l'été. On poursuit cette émission de l'autre côté de la France, dans le Bordelais. Bonjour Philippe Cazot.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes le directeur général de Bordeaux Familles. Alors, est-ce qu'on dit Familles ou Familles? Est-ce que vous
Familles.
Familles. Donc, on va l'angliciser. On va faire un zoom dans quelques instants sur votre stratégie, votre diversification vers les vins sans alcool ou avec peu d'alcool, ce qu'on appelle les NOLO. Mais tout d'abord, on va présenter Bordeaux Familles, donc un regroupement de plusieurs caves qui est en fait l'héritier d'une précédente union qui était la cave intercommunale de Sauveterre de Guyenne depuis 90 ans, depuis 1934. Aujourd'hui, quelques chiffres clés sur ce qu'est ce regroupement Bordeaux Familles.
Et Bordeaux Familles, on représente aujourd'hui 5000 hectares de vignobles avec 300 producteurs, voilà, qui sont réunis, qui produisent en fait, et Bordeaux Familles commercialise en fait la production de l'ensemble de nos producteurs.
On est où géographiquement parlant?
On est basé à Sauveterre de Guyenne, dans le Bordelais.
300 adhérents. Quel était le but de vous unir? C'était quoi? C'est de rassembler toutes les fonctions support, comme on dit. C'est aussi des enjeux de communication. On en parlait aussi avec l'appartement français et la rue du Made in France. C'est quoi le but de ce regroupement?
Ce but de ce regroupement, il est multiple, à la fois dans la production, où on va pouvoir spécialiser des sites de production sur des produits particuliers. On élabore des rouges, on élabore des blancs, des rosés, des créments de Bordeaux. Donc on a spécialisé les sites sur ces productions-là. Et ensuite, il y a aussi des enjeux, évidemment, de communication et de commercialisation, puisque regroupés, on peut aller ensemble, on peut aller plus loin, en fait, pour porter nos produits et les distribuer dans le monde entier.
Et ça a un impact sur votre chiffre d'affaires? Vous ressentez déjà cet effet?
Par rapport au sans-alcool?
Du regroupement.
Du regroupement, bien sûr. Bah oui, ça nous permet d'être présent dans de très nombreux pays et de pouvoir développer notre chiffre d'affaires et d'assurer un revenu à l'ensemble de nos producteurs.
On va parler maintenant de votre stratégie de diversification avec donc ce que l'on appelle le NOLO, les gammes avec peu ou pas du tout d'alcool. Marché très porteur, on en parle dans un instant. Mais tout d'abord, ce reportage tourné dans votre unité de désalcoolisation que vous venez de créer sur le site de Saint-Romain, donc à Sauveterre de Guyenne en Gironde. Un reportage signé Camille Bourg.
Nous sommes ici sur le site de Saint-Romain à Sauveterre de Guyenne en Gironde. Se trouve derrière moi une unité de désalcoolisation de vin. C'est un lieu qui a été largement investi par une coopérative viticole Bordeaux Familles. Un objectif, répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, vous allez le voir. Totalement désalcooliser des vins ou les faire titrer à 6 ou 9 degrés, tout cela est rendu possible grâce à une impressionnante machine située dans l'une des deux pièces que compose le site. Plusieurs années de recherche et développement avec des outils de laboratoire auront été nécessaires pour la rendre performante, comme l'explique le responsable du lieu, François Lasporte.
Nous allons travailler sous vide. Nous allons être capables de porter l'alcool à ébullition pour le retirer du vin, mais à des très faibles températures, entre 30 et 45 degrés Celsius.
Ce projet novateur a mis 5 ans à aboutir, un coût de 2,5 millions d'euros pour Bordeaux Familles qui mise sur la nouveauté que constitue cette unité de désalcoolisation, précise Philippe Cazot, le directeur général.
On a vu qu'il n'y avait pas d'outils en fait à notre disposition et on voulait avoir une maîtrise parfaite également de l'élaboration en fait de ces vins alcoolisés. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'investissement dans cette unité de désalcoolisation. On maîtrise la production de raisins, on maîtrise la vinification, on maîtrise la désalcoolisation et l'embouteillage.
Aujourd'hui, l'équipe composée de 5 personnes se relaie 24 heures sur 24 pour répondre à la demande de plus en plus forte des consommateurs. Il y aurait 4,7 milliards d'abstems, des personnes qui ne boivent pas d'alcool, d'après la coopérative. Un engouement confirmé par Philippe Cazot.
On a démarré notre activité il y a un peu plus de 6 mois. On est aujourd'hui à peu près 200 000 bouteilles qui ont été vendues. Et l'objectif pour nous, c'est d'arriver à terme à avoir entre 15 et 20% de notre production qui soit commercialisée en vin sans alcool.
Chaque bouteille coûte entre 7 et 10 euros, un prix relativement bas qui s'explique par une réduction de la TVA sur les vins sans alcool et qui compense les surcoûts liés à la production. Le marché est porteur en France comme à l'étranger, de quoi inciter Bordeaux Familles à élargir sa gamme.
Voilà, j'ai découvert, Philippe Cazot, le mot de abstem que je ne connaissais pas, ceux qui ne consomment pas d'alcool. C'est votre cible de manière plus générale. Pourquoi aller vers le NOLO?
Je dirais la tendance du sans-alcool, c'est une tendance mondiale qui est portée par les jeunes consommateurs. Le monde du vin, aujourd'hui, on a du mal à aller vers eux parce que la consommation évolue. Donc ça nous permet en fait de capter ces jeunes consommateurs qui aiment consommer ces produits-là, notamment dans des moments festifs, parce qu'ils peuvent faire en fait comme tout le monde sans consommer d'alcool. C'est aussi une demande en fait très forte, notamment de la restauration. qui voit une baisse de la consommation de boissons alcoolisées, notamment lors du déjeuner. Et donc, voilà, ça nous permet d'amener des produits à base de vin dans un autre univers de consommation et on élargit en fait notre distribution.
Votre stratégie, elle est aussi sur des prix abordables. On a reçu il y a quelques mois ici même une marque comme French Bloom qui propose des bouteilles à une trentaine d'euros. Vous, on l'a dit dans le reportage, on est sous les 10 euros. C'est votre stratégie aussi d'aller vers un autre public qui a aussi des problématiques de pouvoir d'achat.
Oui, et puis nous, en fait, on est déjà dans cette gamme-là par rapport aux produits habituels que l'on va proposer. En fait, on fait des déclinaisons de produits sans alcool au même prix ou quasiment au même prix en fait que les versions qui sont quelque part alcoolisées. Donc on reste en fait par rapport, on vise les mêmes consommateurs parce que les consommateurs aujourd'hui aussi, souvent ils choisissent en fait. Parfois, ils vont consommer de l'alcool, notamment le week-end, et puis la semaine, ils veulent en consommer un peu moins. Et donc, on va proposer des produits à la fois pour le week-end et à la fois pour la semaine aussi, quand ils veulent devenir un peu plus abstinents.
Vous le disiez dans le reportage, 200 000 bouteilles en 6 mois. À terme, quelle part du chiffre d'affaires de Bordeaux Family, cette gamme du Nolo?
Ouais, notre objectif, c'est de faire 20% de notre chiffre d'affaires avec ces gammes-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a démarré il y a quelques mois, et on a un très fort engouement, en fait, autour des produits.
Alors, ces gammes ont on va voir quelques illustrations. Il y a Sauveterre 0%, Mallette, il y a aussi les pétillants Louis Vallon. Et je précise, parce qu'évidemment pour nous c'est important, que vous avez donc une stratégie de taux d'alcool réduit avec les voiles de l'Atlantique. C'est quand même du 9 degrés, donc à consommer avec modération. Vous connaissez la formule. En un mot, vous avez d'autres stratégies de diversification pour Bordeaux Family dans les prochains mois ou les prochaines années?
Alors ça, c'est notre dernière stratégie. La précédente, c'est de faire des créments de Bordeaux. Donc en fait, on a une stratégie où on quitte un petit peu l'univers de la table pour aller vers des moments plus festifs ou des moments en dehors, en fait, en dehors du dîner, en dehors des repas. Voilà, donc l'enjeu pour nous, en fait, c'est d'élargir le champ de consommation avec des produits qui vont être adaptés à ces différents moments.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités de La France à tout pour réussir. Notre émission, vous le savez, est diffusée en télé, en radio et sur l'appli et le site de BFM Business. La semaine prochaine, nous parlerons notamment des 120 ans de la marque Saint-Hubert, des ustensiles de cuisine de la marque Christelle, produits dans le Doubs, et des barbecues Aluvie qui sont, eux, conçus en Isère. Très bonne journée, très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.